Maintenant, on va parler des marchés. Et sur les marchés, bon, c'est pas une surprise, hein, ça a bougé. On a eu des baisses assez spectaculaires. Hein, surtout, alors, on verra, hein, beaucoup en Asie, vous nous expliquerez pourquoi. Beaucoup en Europe, beaucoup moins aux États-Unis. Christopher Dominic a donné un début de réponse en nous parlant de l'autonomie et le fait que les États-Unis soient déjà exportateurs. Donc, la hausse du pétrole ne les touche pas en premier. Si on regarde les performances depuis le début de l'année, bon, franchement, l'Asie a beaucoup souffert, mais le Nikkei reste en hausse depuis 10%. Shanghai reste en hausse. La plupart des marchés asiatiques restent en hausse malgré une semaine qui a été dramatique, hein, puisque les marchés en Corée ont perdu jusqu'à 12% dans une journée. La Thaïlande, 8%. Ils ont été obligés d'interrompre les transactions. Et puis, on voit que sur les autres marchés, bah, le CAC, le Nasdaq, le S&P 500, on est quasiment à zéro. Ce qu'on a vu, Eric et Céline, ce qu'on a vu cette semaine, j'ai l'impression d'avoir vraiment un travail académique de comment un trader doit réagir de façon basique, leçon numéro un de la première année d'études à une situation de guerre au Moyen-Orient, non ? Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé sur les marchés ? En fait, quels sont les marchés qui ont réagi ? Qu'est-ce qui a baissé ? Qu'est-ce qui a monté ?
Alors, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, il y a eu le dollar qui a été perçu comme une valeur refuge
dans un moment
d'incertitude. Donc, hausse du dollar. Meilleur comportement des actifs américains par rapport aux actifs en dehors des États-Unis parce que, encore une fois, les États-Unis sont favorisés par cette crise pétrolière et gazière.
Donc, baisse des indices boursiers en fonction de niveau de dépendance aux importations
aux
pétrole.
Importations et d'exposition au détroit d'Hormuz et au Qatar.
Okay.
C'est plutôt ça qui a joué.
Okay.
L'exposition, notamment pour l'Inde et la Chine, qui sont très dépendantes du gaz qatari. Et également une fluctuation plus forte dans les classes d'actifs qui avaient bien performé cette année.
Ouais.
Faut pas qu'on l'écarte parce qu'effectivement, quand l'or, le Japon, les pays émergents ou l'Europe avaient surperformé de façon très massive les États-Unis depuis un an.
Donc il y a eu des prises de profit.
Okay. Voilà. Ce qui est un peu logique parce que vous dites bah, peut-être que j'ai eu une très belle performance à cet endroit-là, je suis investisseur, je prends mes profits. Donc c'est ça qui s'est passé. Et il y a également, je pense, intégré dans le raisonnement des investisseurs, Trump always chickens out.
En l'occurrence, il s'est pas dégonflé. Hein.
Oui, mais qu'à la fin, même... il va s'arrêter.
Oui, d'accord.
On nous expliquait qu'il n'y arrivait jamais, qu'il était en train de se faire balader
pendant les négociations.
Voilà. C'est plus sur la partie, il ne va pas nous entraîner dans un choc économique majeur.
Et ce qui est très intéressant, Eric, c'est qu'effectivement, comme l'explique Céline, donc on a eu ces réactions qui sont académiques.
Oui,
ça, c'est vraiment la base de la base du métier de trader. Et à l'intérieur des actions, on a eu aussi des réactions très académiques, c'est-à-dire achat de certaines valeurs, vente de certaines valeurs. Vous pouvez nous dire en fait quels sont les secteurs qui ont été impactés et quels sont les secteurs qui en ont profité ?
Alors traditionnellement, dans ces cas-là, hausse du baril et donc hausse du pétrole. Hein, donc on a vu l'énergie...
Et hausse des valeurs pétrolières.
Exactement. Les valeurs refuges, donc typiquement l'agroalimentaire qui a bien performé à ce moment-là, la pharmacie qui se débrouille bien aussi avec la hausse du dollar en plus. Et puis inversement, on a les banques qui sont attaquées, on a les sociétés cycliques d'une manière générale, sur lesquelles il y avait quand même d'ailleurs pas mal de plus-value à faire.
Et pourquoi les banques sont attaquées, par exemple ? C'est quoi le raisonnement derrière le fait d'avoir...
La cyclicité de l'économie, on remet en cause le scénario central. À partir de ce moment-là, peut-être que la progression des bénéfices est remise en question. Et puis aussi, éventuellement, il y a des personnes qui vont avoir des problèmes de remboursement, la consommation qui baisse, donc tout ça fait que...
D'accord, c'est ça. C'est vraiment comme une valeur cyclique, en fait. Ça n'a rien à voir avec les taux d'intérêt, en fait.
Ça peut avoir un peu, mais puisque les taux ont monté, mais quand les taux montent, c'est plutôt bon pour les banques parce que les taux courts restent bas. D'accord. Donc il y a quand même des marges qui normalement s'améliorent. Mais c'est plutôt le côté cyclique, je pense, et le côté éventuellement prendre des provisions pour des pertes. Et ce qui est plus étonnant aussi quand même dans ce que d'ailleurs Céline disait, c'est qu'on a eu des prises de profit marquées quand même sur des secteurs qui ont bien fonctionné. La défense européenne, par exemple, a quand même bien baissé. Hein. Ça, c'était étonnant. La défense américaine a bien progressé, mais la défense
européenne était très en avance.
Et voilà. Et les utilities aussi, ce qui avait très bien marché. Donc c'est ceux qui fabrique de l'électricité.
Okay.
Donc, je pense qu'on va pas arrêter de fabriquer de l'électricité, par exemple. Mais là, il y a eu quand même des prises de
parce que c'est des valeurs qui ont beaucoup
progressé. Donc, des prises de profit marquées qui explique en fait pourquoi l'Europe et l'Asie ont beaucoup baissé, c'est qu'il y a eu des prises de profit marquées pour remettre les capitaux aux États-Unis, alors qu'ils étaient partis depuis le début de l'année, en fait, vers le monde émergent et vers l'Europe. Et donc, on est revenu en arrière.
Donc là, on a fait le constat, hein, tout s'est passé un peu comme prévu, hein, il n'y a rien eu de très surprenant. La semaine dernière, à quoi on doit s'attendre pour les semaines qui viennent en fonction des différents scénarios. Évidemment, on n'est pas devin, donc on ne sait pas ce qui est dans la tête ni de Donald Trump, ni de ce qui reste des quelques mollahs en Iran. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?
Alors, quel que soit le scénario,
sur la bourse,
pour l'instant, comme on le disait tout à l'heure, on comprend qu'on est dans un monde compliqué. Et donc, à mon sens, la réaction que nous avons connu cette semaine sur les marchés et actions est trop modéré. Je pense qu'on devrait connaître des turbulences beaucoup plus marquées au cours des prochaines semaines. Pourquoi ? Tout simplement parce que si on se remet une semaine en amont, on était déjà dans une zone compliquée. Parce qu'on rentre dans cette incertitude géopolitique à un moment où le marché américain est à des niveaux de valorisation historiquement élevés. On arrive dans un niveau d'incertitude alors que les questions autour de l'IA n'ont jamais été aussi fortes. On ne sait pas quelle sera la rentabilité des investissements. On ne sait pas quel est l'impact sur les entreprises et quels sont les business models qui vont disparaître. Donc on a un océan d'incertitude. On a vu d'ailleurs des acteurs de la dette privée se prendre les pieds dans le tapis avec Blue Hole, et puis la semaine dernière on a eu un problème sur BlackRock. Donc on voit qu'il y a quand même des signaux qui sont extrêmement toxiques.
Vous nous dites quoi ? Warning ?
Oui, moi je pense
sur la bourse, warning.
Justement, si c'est pas passé grand chose, c'est parfait. Tout le monde a envie d'être optimiste, c'est parfait. Mais malheureusement pour nous, on arrive dans cette zone de turbulence avec un niveau d'optimisme qui me semble beaucoup trop élevé et un niveau de présence sur les marchés également très fort. Il y a très peu de cash chez les investisseurs.
Et warning sur toutes les bourses ou principalement sur la bourse américaine ?
Je pense que là, à court terme, il faut faire un warning sur toutes les bourses.
Vous êtes d'accord avec ça, Eric ?
Nous, on a un point de vue un peu différent. On a été un peu plus prudent donc à la fin février parce qu'on avait de bonnes performances, on a pris des profits, donc ça c'est un petit peu une chance quand même, hein, mais c'est une bonne décision.
Le bon sens paysan.
C'est ça, la Suisse était avec nous, donc on a pris le bon sens avec nous. Maintenant, on remarque qu'il est quand même souvent judicieux de résister à la tentation d'agir de manière impulsive sur son patrimoine. C'est-à-dire que on a vu que lorsque les crises arrivaient, le fait de paniquer et de vendre pour changer complètement l'organisation de son portefeuille, mettre des liquidités à ce moment-là, les rebonds sont très rapides et très puissants. Et donc, c'est souvent, en fait, des pertes derrière et des portes de salut.
Donc, vous dites quoi sur la bourse ? Vous dites prudence ?
On est quand même un peu plus prudent qu'on était. Hein. D'ailleurs, on va le voir dans nos placements aujourd'hui. Mais pour ceux qui n'ont pas bougé en termes d'allocation d'actifs, parce qu'ils n'ont pas envie de le faire, c'est pas parce que aujourd'hui, on est en pleine guerre et on parle d'enlisement, etc., qu'il faut absolument changer et aller vers le cash.
Donc vous n'êtes absolument pas d'accord avec Céline.
Et nous, on fait attention à ne pas trop bouger les actifs aujourd'hui.
Vous n'êtes absolument pas d'accord.
On ne fait pas de warning sur le.
Il faut une confrontation, donc comme ça, pas pu être avec la macro. Donc,
vous qui êtes conseiller en investissement, en stratégie d'investissement, qu'est-ce que vous dites à vos clients?
Nous aussi, on ne panique pas, c'est-à-dire que notre scénario.
Donc vous êtes complètement opposé à Céline.
Voilà, vous êtes satisfait ? Non. Alors, dans le détail.
J'essaye de créer un peu de tension sur ce plateau.
Oui, il faut, mais c'est compliqué
mais non,
aujourd'hui.
Hein. Aujourd'hui,
Mais après, le problème, c'est qu'on va se rejoindre si on met en avant l'or.
Je panique pas, je dis juste qu'il faut faire quand même hyper attention.
Eric dit que vous paniquez.
Justement, on est dans un océan d'optimisme.
Non, nous, on reste convaincus, et on en a parlé avec beaucoup de clients, que ce qui se passe en termes géopolitiques n'aura pas un impact sur les performances, sur l'année. Mais je vous donne un conseil. Alors nous, on n'est pas exposé, c'est un conseil gratuit, vous voyez. La bourse de Tel Aviv a extrêmement bien performé. Ils ont atteint quand même un record historique en début de semaine. Ils ont fait x7 en 2 ans. Et ça montre aussi qu'il y a de la résilience, y compris sur les marchés actions, y compris des marchés qui sont quand même plus moins liquides. Et...
Donc vous nous dites quoi ? Prudence, mais pas
prudence, c'est-à-dire acheter de la protection. Nous, on avait déjà mis de l'or, comme beaucoup d'ailleurs, en portefeuille.
Vous avez écouté, Céline ?
Tout à fait. Vous voyez, il n'y a pas de confrontation. votre émission permet d'échanger.
Absolument.
Et donc,
c'est le but.
Donc, ça pas fondamentalement.
C'est un espace de bienveillance.
Sur 5% d'allocation en or dans le portefeuille, ce qui nous paraît assez cohérent. C'est peut-être un peu plus sur la clientèle privée, mais force est de constater qu'on n'a pas vocation à modifier ces aspects. On a vu, hein, dans notre portefeuille, peu de nos fonds sont exposés directement à la situation du conflit.
Éric, encore sur la bourse, et on passera sur tous les placements, les classes d'actifs.
On ne dit pas non plus qu'il faut remonter les portefeuilles actions et les actions aujourd'hui. C'est trop tôt pour nous, hein.
D'accord.
C'est quand même un point.
Non, c'est pas le moment de rentrer.
C'est un peu trop tôt pour regarder, d'accord, les opportunités, pour le coup. On remonte pas les expositions.
Donc vous êtes pas tout à fait
au. Voilà. C'est ça. C'est ce que je voulais dire.
On a réussi à trouver un
point. C'est ce que je voulais dire.
Il y a rien qui fonctionne aujourd'hui. Ça marche pas.